Et avant, sa, avant la prédication, le message que va nous délivrer notre frère Evert, je vais lire donc un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, vous en doutez, puisque c'est le jour de Pentecôte. Nous allons lire le chapitre 2 des Actes des Apôtres, du verset 1 au verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues ? Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vaine doux. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, et je laisse la place à Evert.
Bon, c'est très bien d'être de retour. Pour nous, c'est toujours un moment d'émotion de revenir à Toulouse et de revenir voir et les lieux et les personnes qui nous sont devenues chères, plus surtout les personnes. Hier, on a fait une promenade sous la chaleur écrasante, une promenade sentimentale pour repasser par tous les lieux où nous avons vécu quelque chose, ne serait-ce que là où on a mangé, là où on a rencontré un tel, là où on a discuté de ça, parce que c'est une ville pleine de souvenirs que personne ne voit que, sauf nous. Donc voilà, c'était notre expérience à nous. Et puis ce matin, on a fait l'énorme déplacement pour traverser la distance qui sépare le presbytère de cette église. Donc tu disais, on est venu de loin, mais ce matin, ce n'est pas aussi vrai que ça. Et nous logeons à Carcassonne pour quelques jours pendant notre période de quelques mois. En France, désormais, c'est un peu l'habitude de passer quelques mois en France. Et nous sommes contents d'avoir les moyens et la possibilité aussi de voyager et de vous rencontrer, d'avoir la santé, de se déplacer. Tout n'est pas si évident que ça quand on a vécu des périodes comme nous où ce n'était pas possible. Voilà. Ce matin, jour de Pentecôte, c'est un jour de commémoration et de célébration de ce qui s'est passé lors de ce merveilleux jour de Pentecôte qui a bouleversé l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire du monde entier et dont nous sommes encore le résultat aujourd'hui. C'est Luc qui en a fait le récit célèbre que nous venons d'écouter par la bouche de votre pasteur. Environ 120 disciples, hommes et femmes, furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Contrairement à beaucoup de représentations de la jour du Pentecôte, ils n'étaient pas que 12 à avoir des langues de feu. Le récit parle de 120 personnes, hommes et femmes. Donc il faut bien se mettre en tête cela, que la foule était beaucoup plus grande que sur les tableaux que vous pouvez parfois voir, où on retient le nombre de 12. C'est l'expérience de Pentecôte de l'Église primitive. Ce matin, je ne vais pas commenter ni expliquer les différents aspects de ce qui s'est passé ce jour-là. Vous aurez l'occasion, et vous l'avez déjà fait. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de prendre un peu la hauteur et regarder d'un peu plus loin, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas ? Au-delà des phénomènes qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous choquer, qui peuvent nous stupéfaire, etc. Au-delà de cela, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et c'est aussi ce que l'apôtre Pierre va faire dans son discours qui va suivre la lecture que nous avons faite. Donc il va s'adresser à la foule étonnée de ce qu'elle voit. Et Pierre, là, il va prendre de la hauteur. Il va citer les prophètes d'Israël. Il met cela dans un contexte historique. Il va rappeler la crucifixion de Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension au ciel. Et enfin, il va résumer tout son propos, tout ce qui s'est passé ce jour-là, en une phrase merveilleuse que je cite. « Élevé par la droite de Dieu, ce Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répondu ce que vous voyez et entendez. » C'est une phrase magnifique. En réalité, elle montre que ce que l'Église primitive a vécu ce jour de Pentecôte-là n'était pas seulement une expérience de l'Esprit-Saint. On le pense toujours, ah oui, ils ont reçu l'Esprit-Saint. Non, ils ont vécu une manifestation de la Trinité de Dieu. Les trois personnes de Dieu étaient à l'œuvre ensemble ce jour-là, en parfaite harmonie et collaboration. Le Père a envoyé le Fils. Ensuite, il a envoyé l'Esprit au Fils. Et enfin, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit sur l'Église. Comprenez qui pourra. Et on est au sein d'une même divinité. C'est le même Dieu. Mais au sein de Dieu, il y a ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne les processions de Dieu ou les missions de Dieu. Dieu envoie Dieu. Dieu est envoyé par Dieu. Est-ce que vous saisissez ? C'est ça ce que Pierre est en train de dire. On entre dans le mystère de la Trinité de Dieu. Et dans certaines langues, on ne dit pas Trinité, mais Triunité, ce que je trouve encore mieux. Mais en français, on retient le latin Trinitatis, Trinité des dieux. Et c'est de cela que je veux parler ce matin. La Trinité de Dieu dans notre vie, j'aime ta présence. D'abord, notre texte dit ceci. Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Donc, pour comprendre déjà, quelle est la promesse ? Cette venue du Saint-Esprit a été annoncée non seulement par les prophètes, que Pierre va citer, mais aussi par Jésus lui-même. C'est lui qui en a fait la promesse parfaite et beaucoup plus élaborée encore. Pendant son dernier repas pascal avec les disciples avant sa crucifixion, et vous pouvez lire tout cela en Jean 13 jusqu'au Jean 17, cet enseignement que Jésus a donné ce soir-là. Et dans cet enseignement, il fait une promesse étonnante. Le thème principal de cet enseignement de Jésus lors de ce dernier repas, que vous pouvez lire dans ces chapitres en Jean, c'est la question « Comment les disciples pourront continuer à suivre le Seigneur après la mort de leur Seigneur qui est imminente ?» Mais comment faire après ? Et là, il développe la promesse « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. » C'est ça la merveilleuse promesse qui s'applique non seulement à tous ses disciples réunis lors de ce dernier repas, mais qui s'applique à tous les disciples de tous les temps et de tous les lieux. Et en plus, Jésus place cette promesse clairement dans le cadre de la Trinité de Dieu, tout comme Pierre le fait dans notre texte de référence. Donc, je veux revenir un instant sur cette promesse telle que Jésus l'a donnée dans son enseignement, son dernier enseignement, avant sa crucifixion. Premièrement, Jésus, il reviendra. Et je veux lire ce qu'il dit au verset 1 à 4 dans le chapitre 14 de Jean. Dans la maison de Père, de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais pour préparer pour vous une place, je reviens vers vous pour vous prendre auprès de moi. Je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Ce passage est très souvent cité pour évoquer notre espérance d'une vie éternelle en tant que croyant individuel auprès du Seigneur après notre mort et notre trépas de cette terre. Cette signification est certainement là, mais c'est une promesse qui va plus loin. Le Seigneur parle explicitement d'un retour. Je reviens. Et ce n'est pas au moment où je vais mourir que Jésus revient. Ça, c'est quelque chose d'autre. Non, il dit, je reviens vous prendre auprès de moi. Cela indique plutôt son retour glorieux vers la fin des temps, un retour que nous attendons encore toujours. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le Seigneur développe son enseignement et précise la promesse de son retour, on va comprendre qu'il va revenir de plusieurs manières. Au verset 18, il dit ceci, « Je ne vous laisserai pas orphelins », c'est ce qu'il avait déjà dit, « je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Il sera crucifié et mort. » Mais vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Ce sont des phrases tellement riches qu'il faut il faut s'arrêter sur ça. Ici, le Seigneur parle pas de son retour vers la fin du temps, mais il parle de sa résurrection. Vous me verrez parce que je vis et vous vivrez. Ça fait référence à cette période de 40 jours où les disciples ont vu le Seigneur. Ils ont vécu sa présence pendant ces 40 jours après sa résurrection et juste avant son ascension. Mais Jésus savait déjà que les disciples allait découvrir ce que les disciples allaient encore découvrir après sa résurrection. En tant que ressuscité, il revient chez les disciples pour seulement une période limitée de 40 jours. Et après, il va les quitter définitivement, et monter au ciel. Ce sera de nouveau un moment de séparation, un moment douloureux, où, en quelque sorte, les disciples laissés sur la terre sont encore une fois orphelins. Qu'en est-il de cette promesse ? Qu'en est-il de cette promesse de ne pas les laisser orphelins ? Lisons en versets 15 et 17 à 17 ce que le Seigneur va leur dire. « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur ou consolateur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, le Père et le Fils, et nous ferons notre demeure auprès de lui. » C'est beau ça. Ici, Jésus ne parle pas d'un retour à la fin des temps, ni de son retour dans la résurrection, mais d'un autre retour en la personne du Saint-Esprit qu'il va appeler aussi Parakletos, un mot grec qu'on peut traduire par avocat, défenseur, aide, consolateur. C'est un mot très riche de sens. Les disciples auront quelqu'un d'autre à leur côté, quelqu'un dans leur cœur, qui va leur rappeler les paroles du Seigneur, qui va leur inspirer l'amour du Seigneur, qui va les transformer selon le caractère du Seigneur et qui va être là définitivement. L'Esprit, dit Jésus, prendra ce qui est à moi et il le mettra en vous. Et ensuite, il dit, nous viendrons. Il ne dit pas « je reviens », mais « nous reviendrons ». Et nous ferons notre demeure auprès de ceux qui m'aiment. Nous, le Père et le Fils. Alors, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la présence de Jésus, ressuscité et glorifié. Déjà une chose. Jésus n'est plus là. Il n'est pas dans mon cœur, il est au ciel. Donc, quand on dit parfois, pour simplifier les choses, accueillir Jésus dans son cœur, ce n'est pas vrai, parce que Jésus est au ciel. On est bien d'accord. Mais par l'Esprit, on peut vivre sa présence. Mais en même temps, c'est aussi recevoir la présence de Dieu le Père en nous. Dieu le Père, il est sur le trône de l'univers, il règne, bien sûr. C'est impossible, l'univers entier n'est pas capable de le contenir. Et pourquoi ? Il peut rester dans la vie d'un croyant. Et là, on touche à un mystère. Jésus précise que l'Esprit de Dieu est un autre paraclétos, consolateur ou défenseur ou avocat. Là, je m'arrête sur un mot « autre ». En grec, il y a deux mots pour « autre », « allos » et « hétéros ». En français, on a retenu « allogène » et hétérogène. Tous les deux sont différents, mais quand on est allogène, on est différent, mais de la même sorte. Quand quelque chose est hétérogène, on est différent, ce qui est, ou quelque chose est différent, et d'une autre espèce. Ici, Jésus utilise le mot allos. C'est très important parce que cela signifie que l'Esprit est exactement de la même sorte, de la même essence que Jésus. Et si Jésus, le Fils de Dieu, est un avec le Père, l'Esprit est donc également un avec et le Fils et le Père, parce qu'il est différent, mais de la même essence divine. Comment est-ce possible ? Ici, nous sommes face au mystère de la Trinité de Dieu, ou de la triunité de Dieu. C'est un mystère, un mysterium. Dans notre foi chrétienne, on a plusieurs mystères. Dans nos églises évangéliques, on ne parle pas trop de mystère. Ça sonne un peu catholique, mais c'est très chrétien de parler de mystère. Dans le langage moderne, ce mot veut dire quelque chose de secret, de caché et d'incompréhensible. Mais dans la Bible et dans le langage chrétien, un mystère désigne quelque chose que Dieu a révélé, que nous n'aurions jamais pensé nous-mêmes. Quelque chose qui dépasse notre raisonnement humain, mais qui ne le contredit pas. Et que nous pouvons accueillir par la foi comme étant véritable. Pas besoin de comprendre jusqu'au fond ce que c'est, on peut accueillir cette vérité comme véritable. Et c'est comme ça que nous accueillons la Trinité de Dieu comme une vérité qui dépasse notre entendement, qui ne le contredit pas, mais qui est de l'ordre divin et que nous accueillons par la foi. En fait, ce mystère de la Trinité, que je veux déballer un peu, consiste en plusieurs mystères. Le premier de ce mystère de la Trinité, c'est le mystère du Fils. Jésus a dit mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Ceci est déjà une grande prétention parce que dans la Bible, il est interdit d'adorer quelque autre Dieu que ce soit que le Dieu éternel qui s'est révélé. Donc si Jésus réclame d'être l'objet de notre foi, il se met au même niveau que Dieu, le Père. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Adorer Jésus, c'est donc adorer Dieu lui-même, sinon on est idolâtre. Et c'est d'ailleurs la grande discussion pendant 3 siècles de l'Église, après la Pentecôte, est-ce qu'on a affaire à un deuxième Dieu ? Dans ce cas-là, on est idolâtre. C'est impossible. Donc, si Jésus est Dieu, il ne doit être que ce seul Dieu unique que nous adorons. Et c'est ce que Jésus dit aussi dans le chapitre 10 de Jean, « Le Père et moi sont un ». Ceci, il faut en prendre la mesure, c'est vraiment inédit dans l'histoire des religions et dans l'histoire du monde. Quelle que soit la religion, quelle que soit la tradition, culture ou civilisation, personne n'est allé aussi loin que Jésus en s'identifiant si clairement au Dieu unique. Vous ne trouvez pas ça dans d'autres religions. Il y a des émanations de Dieu, des révélations de Dieu, des messagers de Dieu, mais c'est toujours quelqu'un d'autre. Et ici, c'est la même personne, c'est Dieu lui-même. Celui qui m'a vu, dit-il dans son enseignement lors du repas pascal, celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative, c'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Ici, le Seigneur ouvre la voie sur ce qu'on peut dire la pluralité en Dieu. Dieu le Père Tout-Puissant et Créateur de l'univers est aussi Dieu le Fils. Le Dieu immatériel qui dépasse tout l'univers fait en sorte que le Fils de Dieu soit incarné en un homme, tout en restant Dieu. Ainsi, le Dieu invisible s'est rendu visible en Jésus. En Jésus, les humains peuvent voir et connaître le caractère de Dieu, les traits moraux de Dieu, les attributs de la divinité. Jésus-Christ n'est pas une seconde divinité, sinon on serait bithéiste, idolâtre. Il est Dieu lui-même, il est l'Éternel que nous appelons Seigneur. Et en lui, l'Éternel vient porter le poids des péchés et même mourir à la croix. En quelque sorte, Dieu meurt à la croix. C'est incroyable ça. C'est pas le Père qui meurt, mais Dieu lui-même, en portant les péchés, va jusqu'à la mort. C'est là où ça devient... Mais comment ça? Voilà le mystère. Le ciel n'était pas vide pendant les 33 ans de la vie de Jésus sur la terre. Dieu demeurait en même temps dans sa demeure céleste, sur le trône de l'univers, en tant que Dieu Tout-Puissant, qui règne sur l'univers et qui le soutient par sa providence. Et en même temps, l'Éternel Dieu, trois fois saint, est devenu un homme avec toutes les limitations humaines. Il ne pouvait plus être dans deux endroits à la fois. Il ne pouvait plus parler à tout le monde en même temps. Il était limité comme un être humain, tout en restant le Dieu tout-puissant et parfait dans le ciel. L'Éternel Dieu s'est chargé des péchés du monde et en Jésus, il est mort à la croix, tout en restant le Dieu éternellement vivant dans le ciel. Et il y avait donc à la crucifixion comme une déchirure qui a traversé Dieu lui-même, dont la déchirure du voile dans le temple n'est qu'un signe. Deuxième mystère, c'est le mystère de l'Esprit. Le grand Dieu qui transcende tout ce que l'univers qui transcende de tout et qui est trop grand, l'univers entier ne peut pas le contenir. C'est pourquoi Dieu est principalement invisible. Quand les gens disent « mais je n'ai jamais vu Dieu », mais par principe, parce qu'il est Dieu. Le moment où Dieu est visible, il est limité dans l'espace et le temps. On ne peut pas voir. Dieu est trop grand pour être vu. C'est comme ça. Sinon, il ne serait pas Dieu. Mais Jésus manifeste sa présence à travers d'un être humain limité par un espace et un temps. L'Esprit va manifester sa présence d'une manière invisible et omniprésente. En l'Esprit, Dieu est présent dans tous les lieux. Le Dieu transcendant, il est immanent, il est présent dans tous les lieux. Près de tous les hommes qui s'en remettent à Dieu l'Éternel, dans l'humilité et avec un cœur contrit. Et il va même demeurer en ceux qui croient en Dieu le Père et le Fils. En même temps, il est le Dieu transcendant, au-dessus de la terre, au-dessus du ciel, au-dessus de l'univers. Et les astronautes, ils peuvent voyager autant qu'ils veulent, ils ne vont jamais voir Dieu, c'est impossible. Par définition, ce n'est pas la peine de chercher. C'est un très grand mystère, ce mystère de l'Esprit. Dieu, par l'Esprit, entend les louanges et les prières de tous ces innombrables enfants, à la fois. À la fois. Vous pouvez prier et vous pouvez être des milliers, des millions, des milliards à prier. Et par l'Esprit, Dieu a une attention particulière, comme si vous étiez le seul à avoir rendez-vous avec le Seigneur. Mais c'est le rendez-vous qu'il donne avec tous les croyants, à la fois. C'est un mystère du Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu. Il prête attention à nous tous de façon personnalisée. En fait, il est si proche de nous qu'il pose son oreille divine pour entendre le battement de notre cœur, les soupirs de notre âme, nos prières et les désirs qui se cachent derrière nos prières. Il entre discrètement dans notre intimité pour voir au plus profond de notre fort intérieur ce qui nous réjouit et ce qui nous accable. Il nous comprend mieux que nous-mêmes, le mystère du Saint-Esprit. L'Esprit n'est pas simplement une force ou une présence divine, sinon ce serait impossible de faire ce que je viens de décrire, mais il est l'Esprit du Saint, c'est-à-dire de Dieu lui-même. L'Esprit est Dieu présent. Et là, on arrive au troisième mystère. C'est une combinaison de ces deux mystères. C'est cette pluralité en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé, lui-même. Dieu n'est pas dans la nature. La nature est quelque chose d'autre. Il est au-delà. Il maintient l'univers. Il se révèle aux hommes. Il cherche à les sauver de leurs conditions humaines. Il est activement présent dans la vie des croyants. Dieu est un. Confession de foi d'Israël. Aussi, confession de foi de Jésus. Le Dieu est l'Éternel, le Seigneur, il est un. Et c'est ce que les apôtres vont également confesser. Mais cette unité est une pluralité. Et pour comprendre cela, il faut revenir à l'hébreu, la langue maternelle et la matrice de la langue biblique. En hébreu, le mot « un », « echad », est toujours utilisé pour une unité entre plusieurs composantes ou partenaires. Par exemple, en Genèse 3, l'homme et la femme deviennent une seule chair, « echad ». Mais l'homme reste bien l'homme et la femme reste bien la femme, en tout cas, on l'espère. Dans l'Église, les juifs et les non-juifs, les païens, deviennent un dans le Seigneur. Mais ils gardent leur spécificité juive ou non-juive. Un grec ne devient pas juif, un juif ne devient pas grec. Mais ils sont un dans le sens de Echad. Nous voyons la même chose dans la Bible pour Dieu. Dieu, il agit de plusieurs manières. Tantôt, il agit comme l'Éternel Tout-Puissant et Père de son peuple. Tantôt, il agit comme Esprit. Tantôt, il agit comme Fils de Dieu ou comme Ange du Seigneur dans l'Ancien Testament. Et cette pluralité de Dieu est toujours au sein de son unité. Au cours du premier siècle, les théologiens de l'Église ont eu beaucoup de peine pour clarifier cette vision de Dieu comme Jésus l'a révélée et pour tomber d'accord sur les mots justes pour l'exprimer. Le débat était féroce et a duré des siècles. Finalement, au IVe siècle, ils ont trouvé un consensus autour d'une description satisfaisante qui dit ceci. Dieu est essentiellement un et son être unique existe en trois personnes, ou hypostase en grec, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est Trinité, trois personnes. Le Père est une personne, le Fils est une personne, l'Esprit Saint est une personne divine. Et pourquoi ? Et pourtant, on n'est pas des trithéistes, on n'a qu'un seul Dieu. Grégoire de Nazianze, c'est l'un des pères de l'Église au IVe siècle, avait cette très belle formule que je retiens, comme beaucoup. Le Père est la source, le Fils est le fleuve et l'Esprit est le courant. Ça, c'est beau, mais ça ne suffit pas pour dire le mystère. C'est une manière de l'exprimer. Il y a plusieurs manières. En fait, on n'a jamais fini par puiser dans ce mystère sans avoir l'idée « maintenant j'ai tout dit, maintenant j'ai tout compris ». La doctrine de la Trinité, pourtant, fédère la quasi-totalité des Églises. Elle n'est pas seulement une doctrine, elle n'est pas seulement un raisonnement réservé aux théologiens et aux laïcs suffisamment instruits pour comprendre, elle est une vérité que nous accueillons par la foi, qui fonde notre foi et notre vécu. Et donc, c'est mon dernier point, notre relation avec Dieu dans sa Trinité. Quelle est la relation avec Dieu dans sa Trinité? Et la première question qui se pose déjà, c'est comment distinguer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Dans la pratique de notre vie chrétienne, on a vite fait de confondre les uns et les autres. Ah oui, Seigneur, ah oui, c'est qui? Est-ce que c'est Dieu le Père ou est-ce que c'est Dieu le Fils? Est-ce que c'est l'Esprit? Ah oui, Seigneur, aide-moi. Tu le demandes à qui, au juste? Ah bon, à Dieu. Bon, que Dieu. Voilà, que je laisse à Dieu de se décider à qui ça s'adresse. Et donc, on devient flou dans son expérience. Ah oui, le Seigneur était avec moi. J'ai Jésus dans mon cœur. Ah bon, je pensais qu'il était au ciel. Voilà, donc on devient très imprécis. Par contre, dans la Bible, les auteurs sont très précis en ce qu'ils disent sur notre relation au Père Céleste, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et ils utilisent spécialement des prépositions pour clarifier cela. Et vous savez, dans chaque langue, les prépositions sont le sujet le plus difficile pour apprendre une langue. J'en fais encore des erreurs en français à répétition parce que les prépositions, on m'a déjà dit au début, ça c'est la chose la plus difficile pour saisir parce que tout est dans le détail. Parce que dès que j'utilise une mauvaise préposition, ça vous met la puce à l'oreille, ah, c'est pas juste. Et avec, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, c'est pareil. Et donc, je vais vous proposer quelques phrases qui sont devenues classiques. On les trouve parfois sur des tableaux que les pieux chrétiens mettent affichés sur un mur dans leur maison. Cette phrase, parfois en trois lignes. Père, Dieu en dessus de nous. Fils, Dieu pour nous. Esprit, Dieu près de nous et Dieu en nous. Mes parents avaient cela affiché sur le mur Bon, en tant qu'ado, je ne prêtais pas trop attention parce qu'il y avait autre chose à faire et autre lièvre à chercher. Mais bon, ça m'est resté à l'esprit et plus tard, je m'en suis souvenu. Mais c'est magnifique, ça. Il existe aussi une autre variante qui dit « Père, tiré, Dieu créateur tout-puissant. Fils, tiré, Dieu sauveur. Esprit, tiré, Dieu présent. » Ces lignes courtes sont très utiles à méditer la Trinité de Dieu. Elles nous aident encore plus à vivre la Trinité, vivre la présence de Dieu l'Esprit, qui est aussi la présence de Dieu le Père, qui nous aime, et la présence de Dieu le Fils, qui est mort pour nous sauver de nos péchés et qui intercède pour nous auprès de Dieu au ciel. Deuxième question, pouvons-nous prier le Saint-Esprit ? Tout brièvement, je veux toucher cela, parce que dans la pratique, on entend souvent des prières adressées au Saint-Esprit. Viens, Esprit, Esprit, fais ceci, Esprit, fais cela, etc. Est-ce que c'est juste ? Dans la Bible, en règle générale, on prie Dieu l'Éternel. Et le mot « éternel » est tellement sacré qu'on ne le prononce pas. « Yahvé », dit-on, et on dit « Seigneur ». C'est une manière de s'adresser à Dieu en tant que créateur, en tant que tout-puissant, en tant que père de son peuple. Dans le Nouveau Testament, les disciples demandent comment prier et le Seigneur les apprend à prier « notre Père ». Voilà. Donc, la question est aussi simple que ça. On s'adresse à Dieu, le Père. Mais nous avons un appui sur le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms, c'est Seigneur, c'est le nom de l'Éternel. Puisque Jésus porte le nom de l'Éternel, il est notre avocat, notre principal soutien. Et nous prions par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelques occasions où une prière s'adresse à Jésus, mais c'était plutôt lors de son vivant. Mais après la résurrection, on n'entend pas les disciples en général s'adresser à Jésus directement, il y a une ou deux instances. Mais on n'entend jamais les disciples s'adresser au Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul instant dans la Bible où un homme est amené à s'adresser directement à l'Esprit de Dieu. Et c'est en Ézéchiel 37, où le prophète reçoit l'ordre de la part de Dieu l'Éternel de passer le message à l'Esprit Saint, afin qu'il vienne sur le peuple qui est en train de se rétablir, afin de donner au peuple un renouveau spirituel profond. Viens, Esprit, sur ce peuple qui est en train de renaître, afin qu'ils vivent un renouveau spirituel. Et là, le prophète, il entre en quelque sorte dans l'action divine qui est d'envoyer le Saint-Esprit. Et il a le privilège de pouvoir prononcer l'ordre que Dieu le Père donne à Dieu l'Esprit. Il donne à l'être humain ce privilège de le prononcer. Et sur la base de cette invocation, l'Église de tous les âges connaît des prières pour le renouveau de l'Église, dont la plus ancienne et la plus célèbre, c'est la prière « Veni Creator Spiritus ». Et cette prière existe en plusieurs formes, et depuis le début du Moyen-Âge, cette prière est priée, notamment pendant la fête de Pentecôte ou avant, pour le renouveau de l'Église et du monde. Mais au juste, quand on dit « Veni Creator Spiritus », on ne dit pas « Viens Esprit », non, on dit « Viens, Créateur, Esprit ». Donc, on s'adresse au Créateur, Dieu le Père, et à l'Esprit. Et c'est une très belle prière, d'ailleurs. Cette prière dit « Viens, Créateur, Esprit, éclairer mon âme, remplir mon cœur de grâce et de lumière, m'inspirer la langue pour te chanter, fortifier mon corps, me donner la vigueur éternelle, chasser l'ennemi, me donner la paix. » très belle prière que vous pouvez prier et retenir comme une prière, mais qui s'adresse en principe au Père dans le nom du Fils, notre Seigneur. Je conclue avec un petit tableau où je reprends des prépositions, la quintessence de chaque langue, donc aussi de la langue biblique et de la langue française, pour décrire notre relation avec Dieu dans sa triunité. 1. Nous louons et adorons le Père et le Fils glorifiés qui sont au ciel, sur le même trône. Et nous le faisons et nous associons l'Esprit Saint, nous louons et adorons aussi l'Esprit Saint qui est au ciel, mais aussi avec nous et en nous. Nous prions le Père dans le nom du Fils qui est notre Sauveur et par ou en ou avec l'aide de l'Esprit Saint. 3. Nous recevons la paix et la grâce de la part de Dieu le Père et de la part du Fils glorifié en étant en communion avec l'Esprit Saint. C'est comme ça que nous le trouvons dans les Épîtres, dans le Nouveau Testament. Et enfin, nous mettons en pratique la volonté du Père en suivant l'enseignement et l'exemple du Fils devenu homme dans la puissance de l'Esprit Saint. Voilà. Que le Seigneur nous aide à grandir et dans la compréhension de cette magnifique mystère, ce magnifique mystère de la Trinité, et de le vivre au quotidien de plus en plus dans sa richesse inépuisable. Amen.